Mathieu Orphelin, donc, qui intervient aujourd'hui, docteur en énergétique de l'École des Mines. Il a été donc docteur et ingénieur de l'École centrale de Nantes. Il a rejoint l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en 2000, où il a occupé plusieurs fonctions avant d'être nommé conseiller à la présidence de l'ADEME en septembre 2005, puis chef du service observation, économie et évaluation en février 2007. Et il a participé activement aux différentes phases du Grenelle de l'environnement. Notamment, il était membre du collège État du groupe sur la croissance écologique, mais je crois qu'il expliquera le processus du Grenelle et son implication. Et il a été chef du projet du comité opérationnel, qui est un des comités du Grenelle, mais il en parlera aussi, rénovation des bâtiments existants. Il anime notamment des travaux concernant l'évolution de la stratégie, des activités et des champs d'intervention de l'agence. Voilà, donc c'est la deuxième conférence de ce cycle sur Paris, et vous aurez donc dans le courant de cette semaine et la semaine prochaine d'autres conférenciers qui viendront aborder différents sujets sur la croissance verte. Alors je vous laisse la parole. Vous savez le format un petit peu de ces conférences, donc de l'ordre de 50 minutes d'exposé par le conférencier, puis ensuite un débat avec la salle. Mathieu.
Merci beaucoup, François. Bah écoutez, bonsoir à tous, et c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour partager sur ce thème du développement durable, de la croissance verte. Il y a beaucoup de choses à dire, et puis on aura sûrement aussi donc beaucoup d'échanges après la conférence en elle-même. Alors je voudrais déjà dédier cette conférence à deux jeunes étudiants que j'ai croisés dans le métro l'autre fois. Et il y avait plein de pubs pour ces conférences, vous avez vu dans le métro, c'était très bien fait. Donc moi j'étais tranquillement assis, il y avait deux jeunes qui sont rentrés dans la rame. Et ils regardaient l'affiche, puis il y en a un qui a dit à l'autre « Ah ouais, ça, je vais y aller, c'est vraiment bien ces conférences-là. » L'autre a regardé, il a dit « Quoi ? Toi, t'aimes bien le développement durable ?» Avec un air vraiment genre catastrophé. Et l'autre s'est repris tout de suite, a dit « Non, t'inquiète pas, non, en fait, mais il y a du business à se faire avec ça. » Et bon, ben, moi, je me suis tu, du coup, au début, j'ai eu envie de leur dire « Oui, moi, j'y suis. » Puis après, je me suis dit « Bon, mais au moins, ils viendront parce qu'effectivement, le développement durable, il faut le faire parce qu'effectivement, il y a une urgence écologique, on va revenir là-dessus. Mais il y a aussi, effectivement, un réservoir de croissance très important pour l'ensemble des pays, que ce soit les pays développés ou les pays en développement. Et vraiment, effectivement, il y a du business à se faire avec ces notions-là. Alors, je ne sais pas s'ils sont venus, s'ils écoutent, mais en tout cas, je leur dédie cette conférence. Alors, le titre, c'est « Agir pour une croissance verte ». Donc, je vais vous montrer... En particulier avec les transparents, vraiment des exemples concrètement de ce qu'on fait aujourd'hui tous ensemble, de ce que le Grenelle a donné. Parce que finalement, le Grenelle, quand on interroge, vous savez qu'on fait les uns et les autres pas mal de sondages, quand on interroge les Français et les Françaises, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de très important qui s'est passé avec le Grenelle. C'est-à-dire quand on les interroge, on dit alors est-ce que le Grenelle a changé, est-ce que ça a été important, les Français disent oui à 80-85% sans aucun problème. Et par contre, quand la question d'après, on dit est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux mesures du Grenelle de l'environnement, et là il y en a peut-être une ou deux qui viennent comme ça, mais la plupart des gens disent ben non, on ne sait pas vraiment. Et donc c'est un peu la trame de la conférence aujourd'hui, ce sera ça, ce sera de passer mesure après mesure, un petit catalogue. Vous inquiétez pas, il n'y en aura pas trop, mais pour essayer de voir concrètement ces notions d'économie d'énergie, de croissance verte, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les résultats concrets qu'on a obtenus au jour d'aujourd'hui dans ce processus du Grenelle de l'environnement? Juste avant de passer à ces actions, je voulais quand même revenir, prendre quelques minutes pour vous remémorer quelques grandes idées sur ce Grenelle, parce que c'est quand même un processus vraiment novateur, et ça vaut le coup d'y repasser quelques temps. Aujourd'hui, il y a plein de pays qui viennent voir ce que la France a fait avec ce Grenelle de l'environnement, et c'est quand même assez rare que les gens viennent voir ce qu'on a fait en écologie, donc on est très contents. Et donc, on peut repasser quelques moments à se demander finalement pourquoi et comment ça a marché, et puis globalement, qu'est-ce que c'était que le Grenelle de l'environnement. Donc très rapidement, je vais vous faire remonter en 2002, à la présidence à la campagne présidentielle de 2002, je vous mets au défi de retrouver un seul échange entre les candidats sur la question de l'environnement ou de l'énergie. C'était un thème qui n'intéressait personne à ce moment-là. C'était vraiment, que ce soit la maîtrise de l'énergie, la protection de l'environnement, le changement climatique, des thèmes qui n'intéressaient pas les Français et donc qui n'intéressaient pas les politiques non plus. sans doute les politiques sont un peu plus lents à partir que les autres, mais en tout cas, vous pouvez rechercher dans tous les échanges, dans tous les programmes de cette présidentielle 2002, vous n'avez rien sur les thématiques. Après, on a eu un certain nombre d'événements. Il y a eu la canicule, effectivement, qui a marqué très fortement les esprits, hein, en France, évidemment, avec un nombre de victimes très importantes. Et cette canicule qui a montré finalement que notre société, elle n'était pas du tout préparée au changement climatique, hein, et qu'on allait avoir du mal à s'adapter à ça. Ça a été quelque chose qui a quand même réveillé le grand public sur ces notions de changement climatique. Il y a eu d'autres événements. On a lancé le défi pour la Terre à l'ADEME avec la Fondation Nicolas Hulot. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu 800 000 Français qui se sont engagés à faire un certain nombre de gestes pour l'environnement. Il y a eu bien sûr le film d'Al Gore, hein, qui a été vraiment un grand succès. Un film très pédagogique, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Et là aussi, ça a été très important. Et puis, il y a eu l'action de Nicolas Hulot. Et là, je crois qu'il a vraiment... je vous ai transporté fin 2006, quand il a dit, eh ben, écoutez, moi, si c'est comme ça, si les politiques ne continuent pas à prendre vraiment la mesure de ce problème du changement climatique, je vais peut-être me présenter aux élections. Et rappelez-vous, à ce moment-là, au début, les gens ont dit, oui, mais ce n'est pas sérieux, etc. Il y a eu 2-3 sondages qui l'ont mis au-dessus de la barre des 10%. Et donc là, ça devenait un objet... un ovni dans cette campagne présidentielle qui avait commencé. Et donc, Nicolas Hulot a dit, bah, écoutez, moi, je ne me présente pas si jamais les principaux candidats signent mon pacte écologique, rappelez-vous, dans lequel il y avait un certain nombre de grandes mesures. Et donc, 5 grands engagements. Alors, j'ai plus les 5 en tête, mais il y en a un qui était créer un vice-premier ministre en charge du développement durable. Il y en avait un autre, c'était la taxe carbone, étudier la taxe carbone. Il y en avait un troisième sur l'agriculture biologique, etc. Et donc, voilà, il s'est dit, si l'ensemble des grands candidats signent ce pacte et mettent vraiment l'écologie et l'environnement au centre de leur campagne présidentielle, je n'irai pas. Et donc, en faisant monter un peu la pression, etc., ça a fait effectivement que l'écologie est arrivé comme l'un des 2-3 grands sujets de la campagne, et tout le monde s'y est mis. Les programmes des différents candidats, évidemment de ceux qui pouvaient en plus être au deuxième tour, mais même les autres, tout le monde s'y est mis. Il y avait vraiment de l'écologie dans tous les programmes. D'ailleurs, pour ceux qui, à l'époque, les avaient regardés en détail, vous voyez que finalement, c'était à peu près les mêmes programmes. De toute façon, on va le revoir aujourd'hui. Il n'y a pas non plus beaucoup de secrets sur les mesures qu'on peut mettre en place. Et donc, quelques semaines avant l'élection, Nicolas Hulot dit « Je n'y vais pas et j'invite la semaine prochaine tous les candidats à venir signer mon pacte écologique et je leur donne un quart d'heure chacun pour s'exprimer sur l'écologie. » Et donc on a eu cette scène complètement surréaliste qui n'est jamais arrivée dans la vie politique française. Un matin, c'était près de la Tour Eiffel, l'ensemble des candidats sont passés et il y a 12 candidats à la présidentielle qui ont signé le pacte écologique de Nicolas Hulot. Et donc, tout ça a été très orchestré. Ségolène Royal a commencé, Nicolas Sarkozy a fini, etc. Chacun avait 15 minutes. Et donc, chacun s'est engagé sur ses grands engagements. Et je crois qu'on peut lui... Il a joué beaucoup dans cette façon de mettre l'environnement au cœur du débat. Nicolas Sarkozy, donc, est élu. Dès son premier gouvernement, met en place non pas un poste de vice-premier ministre, puisqu'en France, on n'a pas ça, mais ministre d'État, qui était à l'époque Alain Juppé, donc ministre d'État chargé d'un tout un tas de choses, donc l'énergie, l'environnement, le développement durable, l'aménagement du territoire, donc un énorme ministère. On passait dans les gouvernements précédents, vous savez, le ministère de l'écologie, généralement, c'était le plus petit ministère. Bon, des fois, c'était les anciens combattants, on se battait avec eux, mais on était généralement relégués au dernier ou à l'avant-dernier rang dans la hiérarchie gouvernementale. Et là, pof, passage en... Effectivement, c'était un désengagement du pacte, hein, donc passage en ministre d'État pour ce gros ministère qui, en plus, traitait vraiment pas uniquement de l'écologie, mais aussi de toutes les questions énergétiques, de toutes les questions d'aménagement du territoire. Donc ça, c'était... évidemment un premier signal fort. Et après, donc, est arrivé très rapidement, dès le début de l'été 2007, ce processus du Grenelle de l'environnement. Alors, qu'est-ce que c'est le Grenelle de l'environnement ? C'est de se dire, tout le monde est d'accord pour placer les enjeux écologiques au centre de nos projets de société, au centre de nos projets politiques, au centre de nos projets économiques parce qu'on court à la catastrophe. On va y revenir. Ceux qui étaient déjà là hier pour la conférence de François Moisan ont vu des graphiques très alarmants. Je ne vais pas les repasser aujourd'hui, je vais passer assez rapidement. Mais il y a une urgence écologique. Il faut changer. Il faut changer la société. Et la société, ça se change tous ensemble. Et c'était ça l'esprit du Grenelle de l'environnement. Après, bon, les assos étaient venus, les assos environnementales, en disant qu'il faut faire des moratoires sur ci, ça et ça. Et je crois que ce qu'on raconte, en tout cas, on n'y était pas, mais que le président de la République a dit à ce moment-là, bah, écoutez, non, on va discuter ensemble, on ne va pas commencer par dire on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. On se met tous autour de la table. Et c'est ça l'idée du Grenelle de l'environnement, c'est dire il n'y a pas les bons écolos type l'ADEME. Nous, on était contents depuis des années, on allait voir les gens en disant attendez, ce que vous faites, c'est mal. Nous, c'est bien, nous, l'environnement, c'est bien. En fait, on avait le beau rôle. Maintenant, là, c'est tout le monde autour de la table, l'ensemble des acteurs, et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut changer pour réussir le défi écologique. Donc, mettre tout le monde autour de la table, ça veut dire mettre, c'était réparti en 5 collèges, l'État, les collectivités locales, les entreprises, les associations environnementales, et puis, le dernier collège, et là, nouveau dans ces discussions environnementales, les salariés, donc les syndicats, qui étaient là autour de la table, donc 5 collèges, et on a toujours travaillé avec ces 5 collèges, d'accord ? Toutes les décisions, et ça c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, je vais souvent y revenir aujourd'hui, parce que c'est, pour moi c'est le plus important, les décisions du Grenelle, elles sont prises à l'unanimité de tous les collèges, vous voyez ? Elles ont été travaillées tous ensemble, et ça c'est une vraie évolution. Donc on les confronte avec les avis de chacun, on les construit ensemble, et ça c'est vraiment une des nouveautés fortes du Grenelle de l'environnement. Alors, il y a eu des groupes, 6 groupes qui se sont mis en place, qui ont travaillé en parallèle. Ça, c'était l'été 2007. Donc, moi, j'étais dans le groupe 6, sur, comme François l'a dit, sur la croissance écologique. Il y a eu 2 groupes un peu transversaux qui se sont mis sur les OGM et les déchets, deux sujets très importants. Et puis, en octobre 2007, il y a eu les fameuses tables rondes du Grenelle de l'environnement. Vous savez, quand Nicolas Hulot est ressorti en disant « je mets 18 sur 20 ». Et là, pendant 2 jours, les négociateurs, donc les meilleurs de chaque collège, ont été négociés ensemble les engagements du Grenelle de l'environnement. Donc ça, c'est octobre 2007. Et de ces tables rondes sont ressortis à peu près, je me trompe toujours sur le chiffre, mais à 268 engagements que vous pouvez retrouver aujourd'hui, par exemple, sur le site du Grenelle de l'environnement. Et ces 268 engagements pour réussir le Grenelle, et tous ces engagements ont été pris par consensus des différentes parties prenantes. Donc là, on a des objectifs très précis. On a une feuille de route très précise. Et c'est toute la fragilité aussi du dispositif. C'est que un consensus comme ça, qui est tout sauf un consensus mou, on va le voir, ben forcément, c'est fragile. À chaque fois qu'on va commencer à mettre en œuvre une mesure, au début, il y en a qui vont recommencer à dire ben non, c'est pas possible, mais si c'est dans notre feuille de route, il faut qu'on y arrive. Donc on ne renégocie pas ces objectifs. Maintenant, on peut négocier la façon dont on les met en œuvre. Mais donc, cette phase a été très intéressante parce que chacun a laissé un peu de ses préjugés au vestiaire et on a construit ensemble. C'est les écologistes c'est les associations environnementales qui ont proposé le bonus-malus automobile. Ça, on l'a oublié. C'est eux qui sont arrivés en disant on va faire un bonus-malus pour les voitures, qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce qu'en est ressorti à la fin, puisqu'ils sont arrivés en disant il faut que ce soit des très gros montants et chaque année, etc. Et on arrivait finalement à partir de là à faire une mesure qui aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, a eu des résultats très très intéressants. C'est aussi les associations qui sont arrivées en disant il faut changer la norme sur les bâtiments, il faut construire des bâtiments qui consomment beaucoup moins. Et là aussi au début il y a eu les cris des uns et des autres en disant mais non c'est pas possible. Et on est arrivé comme ça à construire ensemble et ces 268 mesures, je vais vous en présenter, vous inquiétez pas, uniquement une petite dizaine. Donc, ça, c'était octobre 2007. Après, qu'est-ce qu'on a fait en 2008 ? On a mis en groupe, alors c'était la phase la moins sexy du Grenelle, on a mis en groupe des comités opérationnels. Donc, je ne sais plus combien il y en avait, à peu près 30 ou 35. Et on a travaillé, chaque comité a pris une dizaine d'engagements, et puis on a travaillé sur ces engagements pour les traduire en texte de loi, en texte réglementaire, en nouveaux dispositifs. Et donc, ça, c'était un travail un peu laborieux, mais là aussi, on a continué à travailler tous ensemble. Et puis, parallèlement à ça, et puis ça continue aujourd'hui, il y a évidemment tout le travail législatif. Alors, il y a 3 grands textes. La loi Grenelle 1, la loi de programmation qui, elle, est déjà passée une fois à l'Assemblée, une fois au Sénat. Elle va repasser à l'Assemblée, d'accord ? C'est celle-là qui a été votée à la quasi-unanimité, en particulier au Sénat. Et là aussi, c'était pas un consensus mou, c'est pas une loi qui change rien, c'est vraiment une loi, celle de la Grenelle 1, vous pouvez aller la lire, c'est vraiment quelque chose qui est très instructif, moi je trouve, et très facile à lire, parce que vraiment ça montre la direction de notre société pour les 20 années à venir, dans tous les thématiques, la thématique énergie, la thématique agriculture, la thématique de la consommation, etc. Donc c'est une loi très importante, c'est une loi de programmation, donc elle donne que des objectifs, mais donc celle-là, on espère qu'elle va repasser, enfin qu'elle va très vite être votée définitivement par l'Assemblée. Il y a la grosse loi Grenelle 2. Alors elle, c'est celle qui est en cours, là, donc dont la lecture va commencer au Sénat, celle-là, sitôt après l'été. Celle-là, c'est une grosse loi. Celle-là, je ne vous conseille pas d'aller la lire, parce que celle-là, elle fait 150 pages. Et c'est vraiment une loi applicative et elle est évidemment très, très complexe. Mais on a besoin de modifier beaucoup de dispositions pour mettre en œuvre le Grenelle. Et c'est cette loi-là. Alors oui, ça prend du temps, le travail législatif, ça c'est clair. On peut dire que ça ne va pas assez vite, mais pourtant, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail derrière et qu'on peut trouver que le Grenelle va un peu lentement, mais je peux vous dire que les uns et les autres, on n'économise pas notre peine. Et donc, l'essentiel est que ça avance. On pourrait faire beaucoup du Grenelle sans cette loi. Hein, donc, vous, là aussi, vous ne dramatisez pas. Ce n'est pas grave. On prend quelques mois sur cette Grenelle 2 parce qu'il y a tout un tas d'autres textes qu'il a fallu faire passer aussi, qui étaient aussi urgents. Mais pour simplifier, dans cette loi Grenelle 2, il n'y a que 20% des mesures. Le reste est déjà appliqué. Je vais vous donner pas mal d'exemples. Et puis, il y a aussi la loi de finances. La loi de finances 2009, avec tout un tas de nouveaux dispositifs. Je vais vous en présenter tout à l'heure. Celle-là, elle a été votée, évidemment, à la fin de l'année dernière. Donc, aujourd'hui, le Grenelle donc, est toujours en action. On va bientôt relancer des efforts de communication à l'ADEME pour aller expliquer aux Français, quand même, ce processus. Les résultats, etc. Et pour que les gens aient bien conscience qu'aujourd'hui, il y a du concret derrière tout ça. Il y a un comité de suivi qui se réunit autour du ministre d'État et des secrétaires d'État toutes les 6 semaines, qui permet à l'ensemble des parties prenantes, aux 5 collèges dont je vous parlais tout à l'heure, de discuter des avancées, et de suivre ces 268 engagements. Je ne sais plus si c'est 275, mais jusqu'à la fin là, de la conférence, je dirais 268. Et aujourd'hui, moi, j'en connais une ou deux mesures qui sont complètement plantées. Il y a au moins la taxe pique-nique. Hein, celle-là, on l'a loupée. On reviendra peut-être d'ici quelques années. Mais par contre, il y en a 265 ou 266 qui sont soit déjà en place, soit en cours de mise en place. Et vraiment, allez voir ces engagements, allez voir où on en est, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en œuvre. Le Grenelle, il est aujourd'hui dans la phase de mise en œuvre concrète et c'est finalement la phase qui est sans doute aujourd'hui la plus importante. Je voulais donc vous redresser ce petit panorama pour vous dire comment on a réfléchi avant de passer à l'action, puisque là, c'était le titre de la conférence sur l'action. Alors, rappeler en quelques mots d'abord pourquoi agir. Parce qu'on n'a plus le choix, ça c'est bien clair. L'urgence climatique est encore plus forte que prévu, hein, à part Claude Allègre, je pense que tout le monde en est convaincu. Les rapports des scientifiques qui arrivent jour après jour, et que vous pouvez voir dans vos journaux, confirment tout ça et disent même qu'on est parti sur la très très mauvaise voie. Vous savez que le groupement d'experts intergouvernemental sur le climat, le fameux GIEC, a donné un certain nombre de scénarios d'évolution. On sait qu'au cours du prochain siècle, on va osciller entre plus 1,5 degrés et plus 4 degrés. Et aujourd'hui, on est clairement parti sur la plus mauvaise des voies. Hein, si on regarde ce qu'on a fait depuis 2000, on est vraiment parti sur un très mauvais pas au niveau mondial. Et donc, il faut vraiment aujourd'hui qu'on rétablisse ça. Et c'est clair que le rapport, vous savez que le GIEC fait des rapports tous les 4-5 ans qui permettent de faire le point à un instant T des connaissances sur le changement climatique. Et bien, le prochain va être encore beaucoup plus alarmant que le précédent. Il n'y a plus de doute sur l'origine, sur le changement climatique. Il n'y a plus de doute sur l'origine anthropique, c'est-à-dire que c'est bien dû à nos activités. Les modélisations se précisent à la fois sur l'augmentation globale de la température, mais aussi sur les phénomènes extrêmes. Par exemple, pour des pays comme la France métropolitaine, c'est clair que les modèles commencent à tous converger aussi sur plus de canicules, plus d'événements extrêmes en hiver, plus d'inondations, etc. Voilà. Et un autre point aussi un peu inquiétant, c'est que maintenant, on modélise mieux qu'avant tout ce qui est phénomène d'emballement. Je vous en cite un, c'est quand la banquise fond, vous remplacez du blanc de la banquise par l'eau bleu foncé. Et donc, l'eau bleu foncé va capter encore plus, va moins réfléchir les rayons du soleil. Et donc, plus vous allez faire fondre, plus vous allez emmagasiner de chaleur dans l'eau, et donc plus vous allez faire fondre. Et ça, c'est un des phénomènes d'emballement qui est aujourd'hui pas pris en compte dans les modèles, qui sont en train de prendre en compte, et qui va faire que là aussi, les scientifiques vont sûrement nous alerter encore plus. Le rythme, François Moisan vous l'a expliqué hier, c'est diviser nos émissions de gaz à effet de serre pour les pays industrialisés d'un facteur 4 d'ici 2050. Si on veut limiter le changement climatique à quelque chose qui est acceptable, c'est-à-dire plus de 2 degrés, il faut diviser par 2 nos émissions au niveau mondial d'ici 2050. Et si on veut laisser une marge de manœuvre aux pays en voie de développement pour qu'eux, disons, stabilisent, nous, il va falloir qu'on divise par 4. Donc, ça veut dire qu'on baisse nos consommations de 3% par an. C'est-à-dire, soit on trouve des nouveaux moyens qui consomment moins d'énergie, on se déplace quoi, 4 fois moins, on se chauffe 4 fois moins, etc. Donc, il y a un vrai enjeu, c'est une vraie révolution. Et la loi Grenelle 1, dont je vous parlais tout à l'heure, elle fixe le cap de cette... sans attendre 2050, là où on doit en être en 2020 pour se mettre sur cette route-là. D'accord ? Et cette route, elle est très claire. Hein, c'est diminuer, pour diviser par 4 nos émissions en 2050, il faut baisser de 20% nos émissions en 2020. Et on n'a plus évidemment qu'une grosse dizaine d'années pour faire ça. Donc le Grenelle, oui, c'est un rythme très important qu'il faut mettre en œuvre. Alors, c'est une révolution. On peut vraiment parler de révolution de la société, de nouveaux modèles de société, un nouveau modèle de développement. Je vais y revenir. C'est vrai que on va voir heureusement que tout ça est possible. Hein, donc on ne va pas tous se déprimer ce soir. S'il y avait qu'une chose à se rappeler, c'est que tout ça c'est possible. Et puis les mesures décidées tous ensemble, je vous l'ai dit. Alors sur quoi agir ? Alors faut agir sur tout pratiquement, mais il y a quand même des priorités. C'est clair qu'il y a deux secteurs qui sont vraiment très, très prioritaires. C'est le transport, qui est un secteur qui est vraiment addict du pétrole, hein, dépendant du pétrole à 96%. Et avec la voiture individuelle sur laquelle s'est construite notre société, hein, et qui représente encore, la voiture individuelle, 62% des déplacements urbains. Alors, il n'y a pas plus écolo que les Parisiens et ceux qui habitent en région parisienne. Mais par contre, évidemment, vous savez tous que dès qu'on est en province, tout le monde ou presque est dans sa voiture, et tout le monde est presque est seul dans sa voiture. Il n'y a qu'à se mettre au bord des routes le matin et de compter le nombre de voitures où il y a plus d'une personne. C'est clair que il y a des villes, les pistes cyclables, on va y revenir effectivement, il y a des villes où les pistes cyclables sont bien développées, l'autre où il y en a moins, mais dans ce cas-là, il faut changer d'élu, hein, il faut voter, il faut aller demander des comptes aux élus, effectivement, mais globalement, heureusement, aujourd'hui, c'est vrai que la France n'était pas en avance hein, sur les pistes cyclables, mais heureusement aujourd'hui, l'ensemble des agglomérations prennent vraiment ce problème en compte. Donc le transport avec cette année voiture. Deuxième secteur très problématique, le bâtiment, puisque c'est 43% de la consommation d'énergie du pays sert à chauffer, enfin principalement en plus à chauffer nos bâtiments, que ce soit les logements, le tertiaire. Et donc, 2/3 des consommations des bâtiments, c'est pour chauffer nos maisons. Après, il y a d'autres secteurs très importants. La consommation, aussi bien produire que bien consommer, je vais y revenir. L'agriculture, là aussi, on verra qu'il y a pas mal de gains possibles. Alors, revenir quand même sur cette notion de croissance verte, je crois que c'est vraiment la thématique. Quand à la fin de l'année, on élira le mot de l'année, je crois que croissance verte, celui-là, Il a peut-être déjà été élu l'année dernière, mais pas évident. L'année dernière, ça devait être Grenelle de l'environnement, mais là, croissance verte, c'est vrai que c'est le mot, tout le monde l'a à la bouche. Nous, on pense vraiment que oui, c'est une réalité. Investir dans le Grenelle, c'est vraiment investir dans la croissance verte. Je vous donnerai des chiffres tout à l'heure. Ce qui est clair, c'est que investir dans les économies d'énergie, c'est redonner du pouvoir d'achat aux gens, et en particulier aux moins aisés. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que là, on est dans la crise. Je vais y revenir sur la crise, mais rappelons-nous le premier semestre 2008. N'ayons pas trop la mémoire qui s'efface très rapidement. Rappelons-nous d'il y a un an, où le pétrole était au plus haut, hein, où le diesel à la pompe était à 1,50 € en province, où le fuel avait pris 70% dans l'année, et où on se retrouvait en particulier avec je parle des 20% des Français les plus pauvres, qui avaient explosé leurs dépenses énergétiques, parce que souvent ils habitent dans des maisons mal isolées, et ils ont acheté un terrain. Ils sont accédés à la propriété en deuxième ou en troisième couronne, donc ils font 20-30 km par jour pour aller travailler en voiture. Et bien, vraiment, la crise énergétique de 2008, ce prix du pétrole cher, il n'a pas impacté tout le monde de la même façon. Il a beaucoup plus impacté, en particulier, donc ces 20% de Français les moins aisés, dont la part des dépenses énergétiques dans le pouvoir d'achat est passée de 10% en 2000 à 15%. En 2006, même avant cette crise de 2008. C'est-à-dire que les gens, ils ont perdu plus de 5% de pouvoir d'achat en 5 ans juste à cause de l'augmentation des prix de l'énergie. Donc aider les gens à acheter des voitures qui consomment moins, à mieux isoler leur logement, eh ben, c'est leur redonner du pouvoir d'achat. Donc quand on parle de croissance verte, nous on parle d'abord évidemment du pouvoir d'achat des ménages, et en particulier des ménages les plus modestes. C'est un peu la même chose pour les entreprises. Et là aussi, il faut qu'on se rappelle de ce premier semestre 2008, de groupes comme Air France, Spinetta, disant en juillet 2008, devant tous ses collègues, j'ai failli déposer le bilan d'Air France. Parce que le pétrole était tellement cher que, effectivement, le modèle économique de tout un tas de groupes, je ne parle même pas évidemment de General Motors de ces derniers jours, mais on a eu des secteurs entiers de l'économie française et mondiale qui ont été vraiment les deux pieds à terre, toute l'agriculture, les pêcheurs, etc. Et évidemment, c'était une répétition générale de ce qui va se passer dans les années à venir, parce que dans les années à venir, le prix de l'énergie, il va être plus haut. Soit il va être plus haut parce qu'il n'y aura plus assez de pétrole, soit il va être plus haut parce qu'on va enfin mettre une taxe carbone ou un signal prix très important pour dire aux gens arrêtez de consommer n'importe comment, etc. Mais il sera plus cher. Et donc, il faut qu'on prépare nos entreprises, là aussi, à investir dans les économies d'énergie et dans les énergies renouvelables. C'est très simple. Vous prenez une entreprise qui fait 100 de chiffre d'affaires. Si c'est une entreprise qui marche bien, elle fait 10 de bénéfices, on va dire, 10% de bénéfices. Et bien, sa facture énergétique, une entreprise moyenne en France, c'est ça, c'est 10%. Et donc, si vous avez une facture énergétique qui augmente, si vous ne faites rien, ça augmente de l'augmentation du prix de l'énergie. Le prix de l'énergie en France, il a augmenté continuellement de 3% par an, chaque année, depuis 15 ans. Et ben, si une entreprise qui ne fait rien, elle perd 3% chaque année de son bénéfice à cause de la hausse du prix des énergies. Donc, aider les entrepreneurs et les entreprises à investir dans les économies d'énergie, c'est là aussi préserver leur compétitivité. Et puis, il y a ce que tout le monde a en tête aujourd'hui, c'est de la croissance verte aussi, parce qu'on investit dans des nouveaux secteurs. Les énergies renouvelables, c'est un bon exemple, mais les travaux dans le bâtiment, là aussi, c'est un autre exemple. Il y a des centaines de milliers d'emplois dans tous ces secteurs qu'il faut développer. Et nous, on évalue à l'ADEME, je vous représenterai le chiffre tout à l'heure, à 200, si on veut réussir le point de passage 2012 du Grenelle, ça va permettre de créer ou de sauvegarder en France, sur tous ces emplois dans les domaines verts, 200 000 emplois et 35 milliards de chiffre d'affaires en plus par an pour nos entreprises. Et il n'y a pas beaucoup d'autres réservoirs de croissance en France aujourd'hui qu'à ce potentiel-là. C'est pour ça que, évidemment, le Grenelle, c'est ce que je vous mets là, c'est clair que c'était un plan de relance avant l'heure. Hein, et que aujourd'hui, si vous, on a entendu ici, là, les gens dire oui, le plan de relance de français, il n'est pas assez vert. Alors peut-être, je ne rentre pas dans ce débat, mais il ne faut pas le regarder tout seul. Il faut le regarder avec ce qu'on a fait quelques semaines avant. Pas pour dire qu'on a anticipé la crise, hein, mais par contre, il y a vraiment dans le Grenelle de l'environnement tout un tas de mesures qui sont de la relance verte. Et quand vous faites l'exercice de regarder, faites un tableau, regardez les différents plans de relance des différents pays, ils sont tous construits sous le même modèle, il n'y a pas de secret. Tout le monde a compris l'urgence écologique maintenant et tout le monde a axé ses plans de relance sur les mêmes choses, le transport propre et l'amélioration des consommations des bâtiments. Ça, c'est vraiment les deux gros piliers que vous avez dans tous les plans de relance. Alors oui, le Grenelle, c'est important en temps de crise. Parce qu'il faut, finalement, ce moment de la crise, c'est un bon moment pour assurer cette rupture, faire ce changement de société. Se rappeler aussi que s'il y a eu cette crise, c'est parce qu'on a donné tous ensemble trop d'importance aux signaux court terme. On a oublié tous et certains d'autres, plus que d'autres, mais on a oublié le long terme, on a oublié de réfléchir. On a fait comme si tout ce qu'on consommait aussi, et en particulier tout ce qui n'était pas renouvelable, n'avait pas de prix, alors que ça a un prix. On a fait comme si toutes les atteintes à l'environnement n'avaient pas de prix, alors que ça a un prix. Et donc, on va aujourd'hui profiter, finalement, se dire, ben, sortons de cette crise en repartant du bon pied. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il y a un début de sortie de crise qui commence à s'amorcer. Ben, il faut le faire avec notre nouvelle logique de se dire, voilà, on va avoir un modèle de croissance différent, on va repartir différemment et en apprenant de nos erreurs du passé. Alors, quelques actions maintenant, très concrètement. Alors, d'abord, le bonus-malus écologique, parce que celle-là, je pense que vous l'aviez tous en tête. Alors, l'idée, c'est de dire... Bon, il y avait déjà une étiquette, hein, comme on a sur les frigos, etc. Vous avez la même étiquette maintenant sur les voitures, comme vous l'avez sur les maisons aussi. Donc, on avait déjà depuis quelques mois donné un petit signal aux Français et aux Françaises. Mais là, le bonus-malus, c'est l'idée géniale de dire on va donner un petit coup de pouce à ceux qui achètent une voiture qui n'émet pas beaucoup de CO2 et donc qui ne consomme pas beaucoup. Et puis, on va mettre un petit malus sur une voiture qui émet beaucoup de CO2 et donc qui consomme beaucoup d'énergie. Eh bien, c'est une mesure qui a marché beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on a imaginé, ce qu'on avait imaginé. Quand on avait fait les calculs avec François et les économistes de l'ADEME, eh ben, c'est complètement planté. Les Français, ils ont très bien compris et ils ont tout de suite, et depuis, ça ne s'est pas démenti, ils ont tout de suite révolutionné le modèle, le marché pardon, des ventes en France. Les véhicules avec bonus ont augmenté leurs ventes immédiatement et durablement de 50%. Les ventes des véhicules avec malus se sont effondrées, alors qu'on avait un malus de 200 € pour la plupart, c'est-à-dire même pas le prix de l'autoradio. Mais les gens ont compris ce truc, c'était hyper simple, c'était bon pour l'environnement, moyen, et puis plus mauvais, et ça a super bien marché. Et vraiment, c'est une mesure qui marque une rupture, une révolution pour nous dans ce marché de l'automobile dont tout le monde nous disait « Mais attendez, on gagne un ou deux, vous allez changer d'un ou 2% par an les parts de marché, etc. » Et je crois que ça a été une idée, cette idée du bonus-malus du Grenelle, une idée assez géniale. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a joué le jeu. Et les constructeurs ont sorti des modèles et ont travaillé. Et pour la première fois en 2008, on a eu une forte baisse de la puissance et du puissance des véhicules et du poids des véhicules. Hein, on a, depuis 30 ans, on faisait toujours des véhicules plus puissants, etc. Des véhicules qui vont à 200, 220 km/h sans problème. Et là, pour la première fois, on dit, allez, on baisse un petit peu tout ça pour atteindre pour pouvoir avoir un petit bonus. Et donc, vraiment, les constructeurs ont joué le jeu. Vous avez là, regardez surtout celle du haut, la Toyota IQ, qui est une 4 places, qui est la grande gagnante de notre palmarès dans la version essence cette année, une 4 places qui consomme, enfin qui émet moins de 100 grammes de CO2 par kilomètre. Et donc cette voiture, on n'a pas l'impression que c'est une 4 places, on la regarde comme ça. Bon, le coffre est un peu petit, mais en tout cas, pour des gens qui font une majorité de déplacements en zone urbaine, c'est vraiment les constructeurs qui ont joué le jeu et qui ont proposé enfin des modèles nouveaux. Vous avez en bas la petite Smart qui, elle, dans la catégorie diesel, est en tête de notre palmarès. La voiture qui émet le moins en France en diesel, c'est celle-là. Mais là aussi, les choses pourront changer dans les années à venir. Ce que là aussi, il y a eu de la croissance verte derrière tout ça, parce que les Français, ils ont continué à acheter des voitures. Et on est dans les 2-3 marchés dans l'Union européenne qui ont le mieux marché. Il y a des marchés comme l'Espagne qui ont diminué de 30%. Et en France, on a eu une diminution des ventes, mais de seulement 8% sur 2008. Vous avez vu les chiffres de mai, alors qu'il faut regarder avec les chiffres d'avril pour... d'avril et... non, de, voilà, c'est ça. Mai et avril, il faut regarder ensemble. Mais là aussi, en France, on a été plutôt très bon. On a permis... Ça, c'est un graphique qui vous montre... Pour toute la suite, vous aurez à chaque fois des graphiques comme ça avec ce qu'on a fait. Et puis le chemin du Grenelle, c'est le chemin en pointillé. C'est là où il faut aller pour réussir le Grenelle. Vous voyez qu'on gagnait à peu près 1 gramme de CO2 par an pour les émissions des voitures. Et que là, grâce au bonus-malus, on a gagné immédiatement 9 grammes. C'est-à-dire qu'on a fait, avec cette mesure du Grenelle de l'environnement, l'équivalent de 9 années de progrès technique. On est leader européen avec nos amis portugais. On est dans les deux pays qui émettent le moins de CO2 au kilomètre pour les voitures. Et aujourd'hui, on a fait des émules dans d'autres pays. Et il y a 4 ou 5 pays qui sont en train de mettre en place des systèmes de bonus-malus sur le même titre que le nôtre. Il faut encore qu'on atteigne, qu'on gagne 20 grammes d'ici 2012. Sur le bâtiment, je vais vous parler d'abord du bâtiment neuf. Là aussi, on avait une réglementation thermique où on gagnait tous les 5 ans, à peu près 15% de consommation. Là, le Grenelle dit, on va maintenant, dès 2012, construire plus que des bâtiments qui consomment 50 kWh du mètre carré, alors qu'on était autour de 100 aujourd'hui, dans le neuf. Et donc là aussi, y a une vraie rupture. Et là, ce matin, tout le monde travaille d'arrache-pied. On a fait sortir des centaines de bâtiments, quelques centaines de bâtiments pour montrer que c'était possible ces 2 dernières années. Et aujourd'hui, voilà, on sait faire des bâtiments qui consomment vraiment pas beaucoup. Et même l'objectif, et dans la loi Grenelle, c'est ça, c'est à partir de 2020, on ne construira plus en France que des bâtiments qu'on appelle à énergie positive, c'est-à-dire des bâtiments qui produisent plus d'électricité et d'énergie que ce qu'ils en consomment. C'est-à-dire qu'avec les panneaux photovoltaïques, par exemple, que vous avez sur le toit de la maison, vous pouvez entièrement, en moyenne sur l'année, compenser vos consommations de chauffage. Alors on pourra avoir débat en tout cas là-dessus, mais voilà l'objectif très ambitieux qui est fixé. Ça, c'est la photo de notre bâtiment, le siège de l'ADEME à Angers, qu'on inaugure lundi. Alors, si vous voulez venir, vous êtes invité. C'est un bâtiment, justement, qui respecte cette nouvelle norme. On va consommer 31 kWh, donc à comparer aux 50 et puis... à la réglementation actuelle qui était autour de 100 kWh, donc vraiment un très beau bâtiment en consommation. C'est avec des technologies très simples. Il s'agit juste d'isoler un peu plus. Là, on a fait de l'isolation par l'extérieur, c'est ce que vous avez en bas à droite. On a des super vitrages, du triple vitrage avec store intégré, triple vitrage respirant, etc. Donc on amène des technologies qui existent, mais qui changent évidemment même par rapport au double vitrage que vous avez en tête, mais on a vraiment des matériaux très performants. Et puis on a des technologies là aussi assez basiques aujourd'hui, par exemple la ventilation double flux. Plutôt que de rentrer de l'air froid de l'extérieur, vous allez le préchauffer avec l'air que vous extrayez du bâtiment, et donc là vous pouvez gagner beaucoup. Donc dans le bâtiment neuf, une vraie évolution, mais c'est faisable là aussi. Vraiment, nous, notre message, c'est ça, c'est bon, oui, il y a des surcoûts à l'investissement, mais ils sont très limités. Il y a des plutôt que de parler de surcoût, on aime mieux parler de surinvestissement. Et de toute façon, on est gagnant sur la durée de vie de la maison. C'est ça aussi qui nous sauve. C'est que les économies d'énergie, les énergies renouvelables, c'est rentable. Quand ce n'est pas rentable, l'État met en œuvre un certain nombre de dispositifs pour aider à accès, que ce soit le crédit d'impôt, l'éco-prêt à taux zéro, je vais y revenir. Mais donc... L'avantage, c'est qu'il faut faire le Grenelle parce qu'on n'a pas le choix, mais en plus, c'est rentable. Bon, ça, je vais passer très rapidement, juste pour vous dire qu'il faut trouver des outils pour aider l'ensemble des cas pour ce chantier de la... Maintenant, je passe à la rénovation, parce que sur le neuf, il y a une vraie évolution. Mais l'enjeu principal en termes de consommation, c'est sur les bâtiments existants. Le parc de bâtiments, de maisons et d'immeubles en France, il est très mal isolé. On a des consommations... en moyenne, de 200 à 250 kWh du mètre carré. On a des maisons et des appartements qu'on appelle passoires thermiques qui sont à 400-500 kWh du mètre carré. Et donc, il y a un gros enjeu sur la rénovation des bâtiments. Comment on rénove un bâtiment ? D'abord, il faut isoler. Et ça, les travaux d'isolation, vous êtes rentable en 1 ou 2 ans. Après, effectivement, vous mettez des chaudières plus efficaces, vous mettez la régulation, vous changez vos fenêtres, vous mettez des énergies renouvelables. Tout ça, c'est à la portée de tout le monde. Et en tout cas, aujourd'hui, il y a des vrais outils incitatifs mis en place dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Pour vous donner un exemple, il y avait le crédit d'impôt, développement durable que les uns et les autres peut-être connaissent. Donc, l'État qui rembourse sous forme de crédit d'impôt une partie de vos dépenses, ça peut aller de 25% pour l'isolation à 50% pour 50 à 40% suivant les énergies renouvelables. À côté de ça, a été mis en place depuis le mois dernier, l'éco-prêt à taux zéro. L'éco-prêt à taux zéro, c'est l'État qui vous permet d'emprunter jusqu'à 30 000 euros sans aucun intérêt pour financer vos travaux d'efficacité énergétique. Ça, c'était une mesure qui était fortement demandée dans le Grenelle de l'environnement et qui est mise en place depuis le mois dernier. Ça va permettre à tous les gens qui n'avaient pas les capacités d'investir, même si c'était rentable, parce que ce soit rentable en 4 ou 5 ans ou en 6 ans, si vous n'avez pas le moyen d'investir, ça ne vous sert à rien. Là, avec l'éco-prêt à taux zéro, vous êtes immédiatement gagnant parce que vous allez gagner plus sur votre facture que votre mensualité de remboursement. D'accord ? Et donc ça, c'est une vraie avancée. Donc on veut en faire... En 2012, on va en faire 200 000 par an. Parce que de toute façon, la rénovation, il faut qu'on en fasse 400 000 grosses rénovations par an pour faire le Grenelle. Depuis la crise, il y a un autre avantage qui a été rajouté, c'est que vous pouvez cumuler cet éco-prêt à taux zéro avec le crédit d'impôt sous condition de ressources, mais ça concerne vraiment quand même 3/4 des ménages. Donc vous allez là aussi pouvoir avoir un vrai coup de pouce et il ne sera jamais autant rentable qu'aujourd'hui d'investir dans ces travaux d'économie d'énergie. Autre exemple, il me reste 5 ou 10 minutes, je crois, c'est ça, je vérifie. Je sais pas où il est. Les lampes, les consommations d'éclairage, c'est faramineux. Il y avait la technologie qu'on connaît tous, la lampe à incandescence, celle que j'ai violemment barrée d'un trait rouge. Aujourd'hui, vous avez les lampes basse consommation qui sont en dessous, qui consomment 5 fois moins, qui durent 7 fois plus longtemps. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais elle s'allume vachement lentement et ça fait une lumière qui n'est pas belle, etc. Ça, effectivement, la première génération, elle n'était pas tout à fait au point. Maintenant, vous trouvez des lampes basse consommation de très haute qualité avec un éclairement pratiquement instantané, avec une durée de vie vraiment très, très importante. Donc ça, c'est... Et dans la majorité partie des cas, c'est rentabilisé dès la première année. Alors oui, ça coûte 7-8 euros à l'achat plutôt que 40 ou 50 centimes pour une lampe à incandescence, mais ce que vous gagnez sur votre facture d'électricité, c'est énorme. Donc là, une des décisions du Grenelle de l'environnement, et là, je peux vous dire, quand c'est arrivé sur la table, même si les Australiens et d'autres l'avaient fait, les gens disent, attendez, vous rêvez, mais c'est la fin des lampes à incandescence, c'est-à-dire que dépêchez-vous de faire des stocks des lampes du haut, là, parce que dans 4 ans, vous n'en aurez plus dans vos magasins. Et ça, c'est un bel exemple aussi de révolution de croissance verte. C'est-à-dire que ce produit, il est obsolète. Il y a mieux. Donc, on a signé le ministère, l'ADEME et l'ensemble des acteurs, toute la grande distribution, tous les magasins de bricolage, on a signé un accord en sortie de Grenelle en disant en 4 ans, on enlève toutes ces lampes des rayons. Donc, il n'y aura plus ces lampes dans les rayons. Et donc, on remplace par les lampes basse consommation sur lesquelles on regarde certains problèmes. Par exemple, c'est des lampes dans lesquelles il y a un peu de mercure, donc il faut les recycler. Alors, il n'y a pas de problème, aucun problème avec le mercure si vous le recyclez. Mais donc, il faut bien qu'on explique aux gens aussi que ces lampes, elles vont permettre de gagner beaucoup sur les consommations d'énergie, mais qu'il y a des précautions à prendre, en particulier sur la fin de vie de ces lampes. Mais voilà une génération aussi qui disparaît avec ces lampes à incandescence. Les lampes basse consommation, l'année dernière, elles ne représentaient que 12% des ventes. Et bien, ce qu'on dit, c'est que tous ensemble, on a signé pour qu'elles représentent 100% des lampes des ventes en 2012. Un autre exemple, c'est une autre décision du Grenelle de l'environnement. Alors ça, c'est dur à mettre en œuvre et on suit là-dessus. C'est le prix écologique à côté du prix économique, que chacun puisse avoir le prix écologique. Alors, vous avez déjà un certain nombre de signaux officiels qui existent. L'étiquette énergie que vous voyez tous sur les frigos, sur les voitures, sur tout l'électroménager. Quand vous achetez une maison, vous avez un diagnostic de performance énergétique qui est aussi basé sur l'étiquette. Il y a des écolabels français et européens, vous savez, la petite fleur. Et donc ça, ça existe déjà. Ce qu'on fait dans le Grenelle, c'est l'affichage écologique. C'est-à-dire que dès 2011, à côté, sur tous les produits que vous allez acheter, vous allez continuer à avoir le prix en euros et à côté, vous aurez le prix écologique. Alors le prix écologique, pour tous les produits, il y aura un prix en CO2, donc un prix effet de serre. Et puis à côté, suivant la nature du produit, vous aurez d'autres indicateurs. Par exemple, vous achetez du poisson, c'est intéressant de savoir s'il y a un problème de surpêche de cette race de poisson-là ou pas. Si vous achetez un meuble en bois, vous voulez savoir s'il vient d'une famille, d'une forêt bien gérée ou pas. Là aussi, donc ça va dépendre de chaque produit. Mais là, je vous ai mis deux exemples de petites expérimentations. Enfin, de petites expérimentations, ce n'est pas péjoratif. Mais à gauche, vous avez l'étiquette Casino. Sur tous les produits de la marque Casino, aujourd'hui, vous avez, pour ceux qui font leurs courses là-bas, l'indice carbone du produit que vous achetez, le gramme de CO2 associé au produit que vous achetez. Et puis à droite, vous avez ce qu'on fait avec Leclerc dans le nord de la France, c'est-à-dire que sur le ticket de caisse et donc aussi en rayon, vous avez les kilos de CO2. Et à la fin, quand vous avez votre ticket de caisse, on vous dit, voilà, ça vous coûte 100 € et vous avez émis 50 kilos de CO2. Alors tout ça, on va harmoniser. Mais voilà un exemple de, on avait lancé ça, on est venu le présenter au Grenelle, tout le monde a dit, il faut le faire, il faut généraliser. Et donc maintenant, on se retrouve à essayer de tous ensemble, là aussi. Alors c'est compliqué, on a 20 groupes de travail en parallèle, parce qu'il faut un chiffre. Mais on va arriver en 2011 à pouvoir aider chacun à avoir le prix écologique. Et y a des fois où c'est... Moi, je me rappelle avoir été tourner un reportage pour France 2 sur un marché à Paris l'année dernière. On était en plein mois de janvier, il faisait moins 5 degrés. On est arrivé sur le marché, il y avait des melons de Cavaillon. Des melons de Cavaillon, c'est marqué melons de Cavaillon. Ils venaient de Martinique. Et alors, le marchand était hyper content. Bon, ils étaient à 13 € le kilo, quand même, de melon. Mais il me dit, il a été cueilli hier. Et pour lui, c'était vraiment génial. C'était un truc, il avait été cueilli hier. Donc, ils avaient racheté la marque Melon de Cavaillon. Ça poussait. Et puis, il me dit, c'est venu en avion immédiatement. C'était à Rungis à 5 h. Donc, hier, c'était 16 h. C'était encore au champ. Et puis, ce matin, vous l'avez là, etc. Et effectivement, quand vous transportez comme ça un melon sur 8000 km en avion, eh ben, il a un contenu en CO2 qui est 50 fois plus important que le même melon, enfin qu'un autre melon que vous achetez à la pleine saison, qui a poussé à 100 km de chez vous, etc. Et ça, effectivement, c'est des choses sur lesquelles on doit chacun faire attention au moment de nos achats. Les énergies renouvelables. Là aussi, on vivote à 10-12% d'énergie renouvelable depuis plein d'années. Là, il faut passer à 23% pour la France. Ça, c'est un engagement européen. 20% pour la moyenne de la France. Et donc, on passe à 23% pour la France en 2020. C'est-à-dire qu'on généralise. Pardon. Ça veut dire que, en gros, toutes les maisons neuves, toutes les nouveaux immeubles, et puis on doit rénover beaucoup pour mettre des chauffe-eau solaires partout, des chaudières bois, des poêles à bois partout. Et ça, c'est effectivement un énorme enjeu, le développement des énergies renouvelables. On parle tout le temps des éoliennes. Quand quelqu'un vous parle des éoliennes, ne lui répondez pas. C'est toutes les polémiques qu'on a avec les uns et les autres sur les éoliennes. Ce n'est pas ça qui est important. Le principal gisement, c'est la chaleur renouvelable. Hein, et donc, c'est en particulier le développement de la biomasse, de la géothermie, et du solaire. C'est là où sont les plus gros potentiels. Et donc, il faut généraliser les énergies renouvelables dans tous les bâtiments neufs. Ça, c'est clair, il est complètement idiot et anti-économique et anti-écologique de construire aujourd'hui des logements neufs ou du tertiaire neuf sur lequel on n'a pas pensé à mettre des énergies renouvelables. Et là aussi, je vous ai mis un petit exemple en bas de choses qu'on a aidé cette année, enfin qui est sorti. C'est un foyer fermé de la marque Fondis, donc quelque chose que vous pouvez installer dans votre cheminée. Et c'est un système donc qui va vous permettre de chauffer votre maison avec du bois. Et donc le bois énergie renouvelable, donc qui n'émet pas de CO2 sur sa durée de vie. Et là, pourquoi je vous présente celui-là? Parce qu'en même temps, c'est un nouveau type de foyer avec catalyseur qui permet de diminuer le CO et les NOx, donc des polluants locaux. Parce que là, on parle beaucoup d'énergie depuis tout à l'heure, mais il y a aussi, par exemple, pour le bois énergie, il faut le développer en prenant attention à ce qui est émission de polluants locaux, parce qu'il faut regarder évidemment l'ensemble des, des impacts des différentes énergies renouvelables. Et donc là, un exemple pour vous montrer qu'on sait faire. On entend des fois le bois, c'est polluant, etc. Aujourd'hui, même en bois domestique, on sait faire des appareils qui sont qui émettent beaucoup, enfin très peu de polluants locaux. Voilà, quelques autres idées là, juste pour parce que vous allez en entendre parler beaucoup dans les prochaines semaines. La fameuse taxe carbone, enfin, elle arrive avec une conférence de consensus qui va être lancée mercredi prochain, je crois. En tout cas, l'annonce. Et puis, donc, ces discussions là aussi, tous ensemble, autour de comment on met une taxe carbone qui vont se dérouler en juillet. Vous avez aussi les biocarburants, hein, les biocarburants première génération. Là aussi, on pourra en discuter dans les questions-réponses. Le Grenelle avait dit qu'il faut que l'ADEME regarde une nouvelle fois le bilan des biocarburants de première génération. Et ça, on va finir ça en septembre. Toute la thématique de la recherche, et là aussi, vous avez dû en entendre parler hier, il faut augmenter la recherche dans les énergies renouvelables, dans les bâtiments propres, dans les réseaux intelligents, etc. Et là, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis en place par le gouvernement, notamment un fonds démonstrateur donc, que gère l'ADEME. Et là, il y a eu aussi des 400 millions d'euros qui ont été affectés en plus pour développer ces technologies de demain. Voilà, donc le Grenelle, 268 engagements. Là, je vous en ai passé une petite dizaine, mais si vous voulez, on peut continuer toute la nuit sur les autres. Non. C'est en mise en œuvre. Au final, oui, pour nous, c'est vraiment une croissance verte. Donc, je vous donnais les chiffres tout à l'heure. 220 000 emplois en 2012, 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires en plus. C'est des emplois non délocalisables, hein, quand vous... Ça, c'est important. Des emplois avec un contenu en emploi très fort. Les branches du bâtiment, par exemple, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que le chantier de rénovation, ça aide pas mal d'entreprises du bâtiment à passer la crise. Hein, et donc ça, effectivement, on parlait quand on a lancé le Grenelle d'emplois nouveaux. Aujourd'hui, on parle d'emplois sauvegardés ou nouveaux. Mais en tout cas, voilà, c'est le Grenelle, c'est un airbag à la crise. D'accord. Et il faut s'en servir comme ça. Ça veut dire aussi changer tous. Nos modes de vie, ça veut dire aussi que l'ensemble des professionnels fassent un énorme effort de formation initiale, de formation continue. Quand vous avez un plombier chauffagiste qui a installé toute sa vie des chaudières gaz et qui maintenant doit passer aux énergies renouvelables, ça ne se fait pas très, très simplement. Donc il faut accompagner l'ensemble des acteurs à changer, à ce que chacun change ses métiers. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a encore des écoles d'architecture en France où l'architecture bioclimatique n'est enseignée qu'en option. Et ça, c'est des choses, évidemment, qui ne sont pas du tout compatibles avec le Grenelle. En résumé, il faut se presser parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est possible et c'est plutôt une chance. Voilà. Je vous remercie.
D'accord. Bien, merci. Mathieu, pour cette présentation. Ah oui, d'accord. Donc, on a un moment, on a une demi-heure pour les questions et le débat. Donc, je crois que là-haut, il y a une première question. Je vois monsieur après, mais il y a une première question là-haut.
Merci. Donc, je reviens. Allô ?
Oui,
merci pour cette conférence intéressante. Je reviens un petit peu sur l'introduction qui a été faite. J'ai deux petites remarques. Il a été dit dans l'introduction que lors de la présidentielle 2002, il n'y avait eu aucun échange sur l'écologie et que personne n'en parlait à l'époque. Bon, moi, je crois savoir qu'il y a au moins un parti, enfin, il y en a plusieurs, mais il y a au moins un parti qui est connu, qui figure à chaque élection, qui s'appelle Les Verts. Donc, parler de l'écologie, il y en a qui en parlent depuis plus de 20 ans. Et puis, deuxième chose, toujours sur votre introduction. Vous dites qu'au moment du pacte de Nicolas Hulot, donc il y avait de l'écologie dans tous les programmes, ce qui est plus ou moins vrai, parce que là encore, les programmes ont été notés à l'époque, juste avant la présidentielle. Il y a eu une alliance de plein d'ONG, hein, les plus grosses ONG environnementales, dont Greenpeace, dont la Fondation Hulot, dont le WWF, qui s'étaient regroupées pour noter les programmes des candidats. Et le programme du candidat Sarkozy a été noté 6 sur 20, là où d'autres avaient 16 sur 20 ou 13 sur 20. Donc même si effectivement tout le monde en parlait, on ne peut pas dire que c'était au même degré. Voilà, donc moi ce que je voudrais dire, c'est que ne continuons pas les mêmes erreurs dans le temps. et qu'il y a actuellement un rassemblement des écologistes qui se produit avec Europe Écologie. Donc j'invite les gens non seulement à voter, bien sûr, pour ce rassemblement, mais au-delà de ça, il est urgent de le rediffuser autour de soi, d'en parler autour de vous. Il y a un kit militant sur Internet, www.europeecologie.fr. Voilà. Et puis juste, j'ai fini. Pour les personnes qui voudraient recevoir l'agenda écolo des manifestations, salons bio, conférences, expos, tout ce qui se passe en Île-de-France sur le plan écolo, vous pouvez venir me donner votre mail et je vous l'enverrai.
C'était plutôt une question.
Bien, je crois que c'est plus un commentaire qu'une question, mais Mathieu, si tu...
Je voulais juste dire, en 2002, c'est pas que personne en parlait, sûrement quelques-uns en parlaient, mais trouver un point de polémique entre sujets là-dessus, entre candidats. Moi, j'en avais pas trouvé, mais effectivement, il y en avait.
Et sur, non, d'abord le monsieur,
juste dire sur les programmes, nous, on avait fait l'exercice de regarder les différents programmes, comme d'autres l'ont fait. Je peux vous dire que les grosses mesures qui sont ressorties du Grenelle, comme par exemple l'éco-prêt à taux zéro, il était dans pratiquement tous les programmes. L'étude de la taxe carbone aussi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure.
Alors, il y a monsieur, si vous pouvez faire des questions plutôt brèves.
Oui.
Je pourrais faire des réponses longues comme ça.
Non.
Voilà. Je veux dire que il faut avoir de l'audace, du culot. Par exemple, je prends un exemple. Il y a un problème de chômage. Bon, on se dit, bon, tiens, on va passer de 35 heures à 15 heures. Même si, bon, disons, ça supprime les gens, mais vraiment, sur le long terme, on va économiser. Sur le plan international, il y a des choses qui pourraient être faites. Oui, j'en ai deux. Et puis, sur le plan international, au Brésil, Sahara, ou les déserts en général, déserts d'Arabie Saoudite, au Brésil, des salements de haute mer pour des pays qui n'ont pas assez de potable, ça pourrait être fait. On voit par exemple avec la crise qu'il y a des millions. Qui a des millions et des millions voilà, qui dorment dans les banques. Deuxième question, j'en finis. Deuxième question. Pourquoi ne pas utiliser pour les transports, utiliser la Seine par exemple, les transports, et au transport gratuit. Ça dit, bon, maintenant les transports communs sont gratuits. Utiliser la Seine comme transport. Bon, voilà.
Merci. Un mot sur le...
Ouais, sur la gratuité des transports collectifs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, prendre les transports collectifs, ça coûte moins cher, ça revient beaucoup moins cher que prendre sa voiture. Alors, je ne dis pas que ce ne serait pas la solution, mais aujourd'hui, même si les gens, on voit bien que même quand prendre, parce que vous pouvez aller sur le site de l'ADEME, vous verrez, vous taperez vos trajets et puis vous verrez combien ça vous coûte à pied, quand c'est possible, ou en vélo, en transport en commun et en voiture. Le transport en commun ressort toujours mieux que la voiture et donc les gens continuent malgré ça à prendre leur voiture. Donc c'est pas que un problème économique. Je dis bien, qu'effectivement, je dis pas qu'il ne faut pas étudier la piste ou que ce n'est pas intéressant pour certains types de populations. Mais ce n'est pas parce que les transports en commun reviennent plus chers que les gens ne les prennent pas. C'est parce qu'il y a tout un tas d'autres freins. Mais ce frein économique n'est pas le plus important.
Alors, il y a madame qui est debout, là, oui, ou madame ou mademoiselle, vous avez la parole.
Bonjour.
Non, qui est assise, pardon.
J'ai deux questions. La première, c'est que vous avez parlé beaucoup d'économie écologique. Votre exposé est très intéressant, il était plutôt du niveau microéconomique. Je voudrais savoir s'il y a des réflexions qui sont menées au niveau national sur un plan macroéconomique et qui envisageraient des modèles économiques qui prendraient en compte les seuils de limite de ressources. Vous avez parlé des poissons, mais on peut continuer sur toutes les ressources. C'est une première question. La deuxième, c'est... Dans le Grenelle, de manière générale, la logique qui a été, qui est prise, qui est un choix qui n'est pas forcément toujours explicité, c'est le choix de l'incitation. Et ce choix a différentes conséquences, notamment c'est de permettre aux gens qui ont les moyens de continuer à polluer ou de consommer des ressources rares, de continuer à le faire. Je ne critique pas ce choix, mais c'est un choix. Il y en aurait eu d'autres qui seraient plutôt orientés sur des objectifs de résultats. On l'a fait sur les CFC, tout le monde s'est mis d'accord pour que dans un calendrier de 15 ou 20 ans, il n'existe plus. On pourrait imaginer que ça soit la même chose, par exemple, pour les voitures. Effectivement, qu'il y ait des économies, enfin des réductions d'émissions, c'est bien, mais ça ne fait à population mondiale croissante que reculer les échéances. Donc j'aurais voulu avoir votre avis sur la possibilité d'une mise en place de politiques plus claires sur des résultats de moyens et pas uniquement incitatives. Donc en gros, j'ai deux questions, la macroéconomie et celle-là.
Sur la deuxième, c'est la vraie question. Finalement, ce serait plus simple d'obliger, d'interdire. C'est clair, nous, on aurait moins de boulot en plus. Parce qu'effectivement, si toutes les voitures qui émettaient plus de 150 grammes de CO2 étaient interdites, ce serait beaucoup plus simple. Si les 4x4, par exemple, si on pouvait interdire les 4x4. Mais on touche cela, effectivement, à la liberté de chacun. Et donc, il y a eu des débats et qui ne sont pas tranchés. Je prends un exemple, par exemple. Sur l'obligation, donc aujourd'hui, vous achetez une maison ou un appartement, vous louez, vous êtes obligé d'avoir le diagnostic de performance énergétique qui vous dit si votre maison elle est classée A, B jusqu'à G. Donc c'est la même étiquette que sur les frigos. Il y a obligation de la faire. Ça, on a obligé les gens parce qu'on s'est dit quand vous achetez une maison, vous faites bien les thermites, etc. Il faut bien savoir combien vous allez dépenser en énergie et avoir cette information au bon moment parce que c'est au moment où vous achetez que vous pouvez faire les travaux, etc. On n'a pas imposé qu'elle soit affichée dans les agences immobilières. Les agences immobilières nous ont dit, attendez, on affiche que ce qu'on veut. Pour l'instant, on n'affiche pas forcément, même le prix, des fois, on met nous consulter. Donc, ils nous ont convaincus que ce n'était pas la peine d'interdire. Donc, on leur a dit d'imposer. Donc, ils ont dit, on va le faire nous-mêmes, ne vous inquiétez pas. Et là, on a signé ça il y a un an. Aujourd'hui, on est en train de regarder avec eux. Et ils vont pas, il n'y en a pas assez qui l'affichent. Donc là, on leur dit, attendez, maintenant, on va vous l'imposer par la loi, si c'est comme ça. Et donc, effectivement, vous avez vraiment raison. Le Grenelle, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses où on s'est dit, ça va être plutôt incitatif dans un premier temps. On va voir comment ça va marcher. Un autre exemple, c'était comment on peut imposer aux gens de faire des travaux. Parce que ça, c'était notre idée. Et quand moi, dans le Comop bâtiment existant, c'était l'idée qui nous... On a débattu des heures de ça. Est-ce qu'on peut imposer aux Français de faire des travaux chez eux? Moi, j'ai envie de vous... Je ne sais pas où vous habitez, mais il faut faire des travaux parce que c'est rentable et donc on va vous obliger à les faire. Mais ça pose tout un tas de... Une fois qu'on a dit ça, après, il y a tout un tas de problèmes. Alors, on dit, alors, quand est-ce qu'il faut imposer? C'est au moment où on vend. C'est le plus simple. Mais on impose à qui? À l'acheteur ou au vendeur? L'acheteur, lui, qui est déjà ric-crac, qui compte à 1 000 euros son prêt, comment on lui impose 30 000 ou 40 000 euros de travaux. Donc c'est clair que le Grenelle, c'est l'incitation plus que l'imposition. Mais on va suivre chaque action. Mais vous avez tout à fait raison. C'est un choix qui a été fait. Pas pour tout, parce qu'on a vu sur la fin des lampes à incandescence, par exemple, que ça ressemble quand même pas mal à une interdiction. Mais on est parti dans un mode de révolution plutôt positif. Sur la première question... Moi, je pense qu'il y a déjà... Enfin, ce qu'il faut qu'on se rappelle, c'est que les objectifs du Grenelle, ils sont fixés, ils sont hyper ambitieux. Enfin, on a regardé ce qu'on pouvait consommer au niveau du pays, on a regardé ce qu'on pouvait émettre, etc. Et c'est de là qu'on est parti. Alors, c'est vrai que c'est jamais très simple. On parle en partie en émissions de CO2, en millions de tonnes, etc. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne nous reste pas beaucoup qu'on puisse émettre, en fait. Et qu'on a... Il nous reste... Il faut vraiment qu'on réduise nos émissions. Et c'est de là où on a regardé, on est vraiment parti au macro. Et c'est comme ça qu'après, on a ces objectifs de la loi et on les applique après à chaque bâtiment, à chaque collectivité, etc. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a travaillé. Mais on est vraiment parti de là sur qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à l'urgence écologique et après, comment on a décliné secteur par secteur.
Ça en fait quatre, une deuxième là. Oh là, ça monte beaucoup. Alors, attendez, dans l'ordre déjà, il y a madame, après il y aura monsieur.
Philippe pour
monsieur
dîner.
Là, puis après, je prendrai les autres.
Bonsoir. Vous avez parlé des initiatives de Leclerc et Casino sur le prix écologique. En tant que consommatrice, où est-ce que je peux avoir plus d'informations là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a comme dispositif d'information publique sur le prix écologique?
Alors, sur cette question du prix écologique, ce que je vous conseille, c'est... Bon, globalement, pour toutes les questions grand public, mais c'est d'aller sur le site de l'ADEME, ADEME.fr. On a 50 000 personnes qui viennent. 50 000, oui, c'est ça. 50 000 personnes par jour. Et par exemple, sur ces affaires d'éco-consommation, vous allez pouvoir avoir de l'information là-dessus, et notamment sur les Zooms, sur ces opérations Casino et Leclerc. Ce qu'on prépare aujourd'hui, c'est la généralisation de tout ça. Donc ça aussi, on peut vous trouverez des informations sur notre site, mais si ça ne vous suffit pas, on peut vous envoyer des choses plus techniques. L'autre chose, pour vraiment sur toutes vos questions, donc là, je m'éloigne un peu, mais là, c'était très consommation, sur l'énergie à la maison et dans les transports, on a mis en place un réseau de conseillers. Donc, on a d'abord un numéro Azure qui est le 0810 060 050. Donc là, on a des gens qui vous répondent au téléphone, qui vous envoient de la doc. Là, c'est sur les comment réduire mes consommations à la maison et dans le transport. Donc, c'est 0810 060 050. C'est le prix d'un appel local. Et après, on a 400 conseillers dans toute la France qui s'appellent les conseillers Espace Info Énergie, qui sont là pour vous donner une information gratuite. C'est rare de nos jours. Gratuite et objective. Donc, vous allez là-bas avec vos factures de votre maison et vous allez leur dire, bah, attendez, je ne comprends pas. Enfin, comment je peux réduire ma facture? Qu'est-ce que ça va me coûter, etc. Donc, les conseillers Espace Info Énergie, vous avez leur... on les a créés pour ça. On les a créés pour qu'ils puissent passer une heure, deux heures, trois heures, deux jours avec vous sur votre projet pour voir comment réduire vos consommations.
Alors, madame, et après, ce sera monsieur après. Hein,
les adresses sur notre site internet ou en appelant 0810 060 050.
Oui, bonjour, merci pour cet exposé très intéressant. En fait, vous avez vraiment axé l'exposé sur les aides et les modifications comportementales au niveau des individus et des particuliers. J'aurais aimé savoir quelles étaient les aides disponibles et les mesures d'incitation autres que réglementaires pour les changements qui devraient intervenir dans les secteurs du tertiaire et de l'industrie.
Alors, il y a tout un tas de types d'aides qui existent. Je vais juste en citer quelques-unes. La principale... Là, le gros dispositif post-Grenelle, il y en a un vraiment qu'on gère depuis deux mois qui est très important, c'est le fonds chaleur renouvelable. Et donc, là, l'idée, c'est de dire vraiment, on met le paquet sur les énergies renouvelables, les projets des entreprises, les projets des collectivités. Et l'ADEME, maintenant, donne des aides avec ses partenaires. Alors, quel niveau d'aide? Un niveau d'aide qui assure aux porteurs de projets la rentabilité par rapport au gaz, qui est notre énergie de référence. Et donc, avec nos aides de ce nouveau dispositif que Jean-Louis Borloo a annoncé en novembre 2008 et donc qui est en place depuis quelques mois, voilà, on met le paquet sur toutes les énergies renouvelables chaleur, donc la biomasse, le bois énergie, la géothermie, le solaire, etc. Et on assure la rentabilité par rapport au gaz. Et ça, c'est quand même assez confortable pour un porteur de projet. Après, il y a tout un tas d'autres types d'aides qui existent pour l'ensemble des acteurs, mais celui-là, je pense, c'est assez exemplaire de voilà, un dispositif qui est à la hauteur des ambitions du Grenelle. Et en gros, il faut qu'on fasse 10 fois plus d'énergie renouvelable par an que ce qu'on faisait avant le Grenelle. Donc, il faut qu'on ait des dispositifs de masse de ce type-là.
Alors, monsieur.
Oui, bonsoir. Première question, je voulais vous demander ce que tout le monde pense. Pourquoi on ne bride pas les voitures alors qu'on pourrait arriver à faire beaucoup d'énergie, d'économie d'énergie dessus. Et deuxième question, est-il vrai qu'il va y avoir à nouveau une vignette auto?
Non, alors, bon, moi je ne sais pas tout, hein. C'est ce qu'on nous réserve, mais non, il n'y a pas de vignette auto. Ce qui est clair, c'est qu'il y a le bonus-malus, que le bonus-malus, il est annualisé pour les très très émetteurs, c'est-à-dire que vous avez, quand vous achetez votre Ferrari, réfléchissez bien, parce que là, vous allez le payer tous les ans. Mais non, c'est bien... Donc, il y a eu l'annualisation du bonus-malus, mais uniquement pour les très gros, les très, très émetteurs. Non, pour l'instant, il n'y a pas de... On était le seul pays qui n'avait pas de vignette en Europe. On l'a remplacé par le bonus-malus, mais il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de vignette, alors que le bonus-malus a eu un effet terrible, quoi. Donc, non. Sur le bridage des moteurs... Je vous dirais, là aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la première année en 2008 où on a baissé, où les constructeurs ont enfin baissé la puissance des moteurs. Ça revient un peu à la question de madame tout à l'heure. Voilà, là, le sens de la... Je vous dis, sur le marché automobile, on a vraiment une révolution cette année sur comment les gens ont acheté, sur les moteurs qui ont été proposés. Et c'est clair que, oui, une autre solution, c'était d'imposer le bridage des moteurs. Ce n'est pas ce qui a été choisi aujourd'hui. Les résultats du bonus-malus sont très bons. Est-ce qu'il faudra un jour brider Mais je peux vous dire quand même quelque chose pour faire quand on fait tous les trucs d'auditeurs ont la parole sur RTL ou sur d'autres émissions comme ça. Hier, je l'ai fait sur les maisons. Les questions sont hyper constructives, etc. Et dès que vous le faites sur les voitures et sur des idées comme ça, vous vous faites lyncher par les auditeurs. Hein. Ça, je peux vous dire que le rapport, quand on parle du rapport du Français à sa voiture, ben, ce n'est pas des blagues. Hein. Et quand vous faites une heure sur RTL avec 20 auditeurs, mais il y en a 20 qui sont contre le malus sur les grosses voitures, il y en a... Ah si, des fois, il y a une femme quand même, parce qu'il faut avouer que les femmes sont quand même plus en avance que nous, les hommes, sur ces questions-là. Donc, de temps en temps, il y a une femme qui dit « Ah oui, c'est bien, finalement, le bonus-malus. » Mais voilà, donc pas de bridage, parce qu'on pense qu'on peut faire ça, mais c'est une autre voie, effectivement. Ça revient à tout à fait la question de madame.
Alors, monsieur là-haut, et après, ce sera le monsieur au deuxième rang. Voilà.
Alors, je reste sur le bonus-malus. Dans votre exposé, quelque chose m'a choqué. Vous êtes réjoui d'une hausse des ventes des voitures de 8%. Est-ce que c'est un avenir écologique? Je ne sais pas. D'autant plus que le bonus favorise, comme vous l'avez dit, des citadines comme les smart. Or, ce n'est pas en ville qu'on a le plus besoin de voitures, puisque, comme vous l'avez dit, il y a des transports en commun, et c'est plutôt à la campagne. Donc, est-ce qu'on ne tombe pas là dans le greenwashing? Et d'ailleurs, l'illustration de cette semaine de Tous les Savoirs, c'est une voiture et pas un bus avec de la pelouse à la place d'une carrosserie.
Alors, j'ai pas dû être très clair parce que c'était d'abord c'est une baisse de 8% et pas une hausse. Donc, je disais que le marché avait mieux résisté que d'autres. C'est clair que pour moi, des voitures plus propres et nettement plus propres, vaut mieux entre deux voitures, vaut mieux une voiture qui émet beaucoup moins. Non, mais. C'est pas la peine de se dire, franchement, sans langue de bois, c'est pas la peine de se dire que les gens vont se passer de la voiture du jour au lendemain et que tout le monde va prendre son vélo pour aller travailler. Moi aussi, je rêve que de ça, mais c'est pas la réalité. Donc, oui, la voiture, on va pas passer de... Aujourd'hui, vous avez vu, c'est encore plus de 2/3 des déplacements en ville. On va pas passer de ça à zéro du jour au lendemain. Donc, oui, la mobilité de demain, c'est quoi? C'est la moitié des gains, c'est moins utiliser la voiture, mieux se déplacer, etc. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi l'autre moitié, c'est parce qu'on va utiliser des voitures qui sont moins consommatrices et qui émettent moins. Donc, il y a sur les modèles d'aujourd'hui, sur les moteurs thermiques, on peut voir qu'on peut faire des gains de façon très importante. Il y a le véhicule électrique qui va se développer aussi. Il va se développer aussi, mais il va bien se développer, parce que justement, c'est ce qu'on est en train de regarder en ce moment. Parce qu'effectivement, on peut faire du mauvais véhicule électrique et du bon. Donc ça, mais voilà, il y a plein de choses sur la voiture. Il y a effectivement essayé de développer des véhicules qui répondent aux besoins, donc soit des tout petits véhicules pour la ville. Par exemple, Autolib, je vous vois, mais on n'est pas forcément d'accord sur tout. Hein, mais c'est clair que des petits véhicules électriques type Autolib mis à la disposition des gens pour que le jour où vraiment ils ont besoin de se déplacer, ils prennent ça plutôt qu'autre chose, etc. Enfin voilà, pour être très clair, c'est... Moi, je veux bien qu'on rêve à un monde où il n'y aura plus de voitures dans 5 ans, mais je connais pas le chemin pour y aller, quoi, c'est tout. Donc,
Alors,
non, mais vous avez vu que dans le Grenelle, j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, je m'en excuse, mais il y a quand même des milliers de lignes de TGV en plus. Il y a du transport en commun en ville et les aides au tramway, etc. Et on d'accord.
Alors, si vous regardez l'état global du réseau, même dans des régions assez riches, je pense même dans certains coins du sud-est, vous n'avez même pas de bas-côté pour faire 300 mètres. Mmh. Alors, vous marchez sur le bord de la route en risquant de vous faire renverser.
Soyez brève et attendez, je vais vous passer.
Les bas-côtés sont très mauvais et dans des régions qui ne sont pas forcément pauvres. Et l'interconnexion des pistes cyclables, des bas-côtés, tout n'est pas bon.
Ouais. Voilà. Alors, monsieur, soyez bref, hein, s'il vous
bon.
Plaît.
Ouais. La question que je voulais poser pour les voitures, on voit qu'on est tout à fait à côté, parce que les marchands de voitures, ceux qui fabriquent les voitures, ils veulent d'abord vendre leur stock, et après on s'occupera des clients, hein, des besoins des gens et des besoins réels. Ça, c'est un premier point. Deux, la voiture électrique, j'y crois pas, parce que les problèmes de batterie, moi je l'ai vu avec les enregistreurs, les Nagra, on n'a pas été foutu dans les quelques années de résoudre ce problème d'alimentation électrique.
D'accord.
Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème d'alimentation électrique, ce n'est pas question de faire des voitures électriques. Bon, à l'heure actuelle, moi je prépare un topo pour faire des voitures qui reviennent moins chères parce qu'on se sert de ce qui existe déjà fabriqué. Quand on voit la traitance, la sous-traitance, l'élément qui fait que le gouvernement ferme les yeux pour délocaliser et pour retirer du travail à beaucoup de gens, moi je vois le quoi de Poissy. Voilà. Ma question est, est-ce qu'on pourra, par un moyen quelconque, arriver tous les constructeurs de voitures rassemblés pour faire travailler, pour faire sortir des voitures avec des moteurs qui ne soient pas ce qui existe sur le marché? Parce que tant qu'ils n'auront pas vendu leur stock, ils ne feront rien.
Voilà, donc peut-être un commentaire pour être, puis après c'est monsieur. Parce que,
oui, voilà. Oui, non, c'est vrai que nous, on travaille à la fois sur l'amélioration des véhicules à moteur thermique d'aujourd'hui. On travaille en recherche et vous verrez la semaine prochaine, on va représenter l'ensemble des projets qu'on a sur l'électrique intelligent, hein, sur des choses aussi comme par exemple le moteur roue, où vous récupérez l'énergie du freinage pour alimenter par exemple une batterie, etc. On travaille sur toutes ces thématiques là.
Et puis la dame qui est là, les deux. Alors monsieur, et puis après il y a plus deux dernières questions. Après monsieur, il y a deux dernières questions. Il y a madame et monsieur. Je suis désolé parce que j'ai des consignes très claires.
Bonsoir.
Alors ma question.
C'est à moi.
Allez-y.
Bonsoir, merci pour la présentation déjà. J'ai bien pris mes notes et il y a quelques points qui me chiffonnent quand même. Quand vous parlez de croissance verte, on ne peut pas parler de croissance sans marché, on est d'accord? Donc quand on parle de marché, il y a deux choses. Il faut penser aussi à la ressource. Donc dans le développement durable, l'aspect de la ressource est important. Donc, pourquoi ne pas parler d'économie de la ressource? Parce qu'aux États-Unis, il y a cette idée qui commence à progresser, d'économie de la ressource, c'est-à-dire que, et là je rejoins madame qui a parlé tout à l'heure, faire en gros un listing de comment consommer la ressource. Voilà, et suivre cette évolution. Le poisson, c'est un très bon exemple, mais le poisson, par rapport à tout ce qu'on consomme, c'est rien du tout. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est le pétrole, c'est beaucoup de choses. Donc voilà, pourquoi ne pas parler d'économie de la ressource? Ça, c'est une première remarque. Ensuite, quand on parle de croissance verte aussi, on parle de marché et aussi de marché non rentable. Et là, je pense à l'énergie. L'EPR, par exemple, c'est très bien. Pourquoi ne pas faire des partenariats qui vont plus loin que l'EPR ou que le seul EPR pour des biocarburants? Pas forcément rentable, par exemple. Pourquoi ne pas avoir des partenariats comme ça, public-privé, sur des choses qui seront rentables à plus long terme? Merci.
Non, mais sur ces partenariats, vous avez tout à fait raison. Il y a des nouveaux métiers qui vont se développer comme ça. On pense par exemple au contrat de performance énergétique dans les bâtiments, qui est vraiment dans ce que vous évoquez, c'est-à-dire du partenariat public-privé, où par exemple une copropriété va demander, enfin une entreprise va investir dans des travaux d'isolation ou de rénovation de chaudière à la place de la copropriété, et après cette entreprise de services énergétiques va se partager les bénéfices avec la copropriété. Donc ça s'appelle les contrats de performance énergétique. Vous avez tout à fait raison, ce sera un des grands moyens. Alors c'est pas très sexy d'en parler, donc c'est vrai que, mais c'est dans la Grenelle 2, voilà. Mais le développement de ces contrats de performance énergétique, et va y avoir des nouveaux métiers de services énergétiques liés à ça. On pense qu'il y a des grands comme Suez ou autres qui vont se lancer, bien sûr, là-dedans, mais il y a tout à fait des nouveaux partenariats. Je vous dis, ce qui nous sauve, c'est que c'est rentable. Quand c'est pas rentable, il suffit de mettre des taxes aux bons endroits et des incitations aux autres pour que ça devienne rentable. Donc là aussi, on sait, on peut y arriver. Non, sur l'économie de la ressource, je pense que, mea culpa, j'aurais dû, je n'ai pas voulu piquer les transparents de François Moisan, puisqu'il les avait présentés hier, mais j'aurais dû repasser les transparents sur
l'épuisement des ressources d'énergie et d'autres points comme ça. Donc la prochaine fois, je recommencerai par là parce qu'effectivement, c'est très important.
Allez, deux dernières questions, parce que je suis désolé, on doit avoir quitté l'amphi avant 20h. Alors, il y a monsieur et madame, mais pour les autres, la dame qui est juste à côté de toi. Là, voilà. Monsieur.
Tous les réseaux de chemin de fer, notamment en Europe, se sont efforcés d'électrifier leurs lignes, effectivement, pour économiser l'énergie. Et lorsqu'on utilise du fuel, c'est que le trafic est trop faible. Or, actuellement, on voit se développer sur des grandes lignes électrifiées françaises le passage de trains énormes de marchandises tractés par des locomotives diesel polluantes venant d'on ne sait où, d'Allemagne, d'Espagne, etc. Alors, pourquoi autorise-t-on le passage de véhicules polluants, de moyens de traction polluants, sur des lignes électrifiées et qui a le pouvoir de l'interdire ? Merci.
Alors effectivement, la dérégulation a des fois des impacts qui peuvent être positifs ou d'autres cas négatifs parce que là, par exemple, on peut pas interdire aujourd'hui. En fonction du... Peut-être qu'il faudra y penser, mais on ne peut pas interdire le passage de train diesel sur telle et telle voie au motif qu'il est diesel. Ce qui est clair là aussi dans le Grenelle, c'est que dans la Grenelle 2 dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une nouvelle obligation qui va être très importante, c'est l'obligation d'affichage pour toute prestation de transport sur votre bon de livraison, du coursier, de l'entreprise, etc. Vous allez avoir le contenu en CO2 du trajet. Et donc, vous allez pouvoir comparer effectivement, là aussi, l'impact du transport que vous avez choisi. Oui, vous avez pris une compagnie un peu moins chère qu'une autre pour transporter, ou vous avez privilégié le camion au fret parce que ça coûtait moins cher, mais votre impact CO2, il est 5 fois plus important. Ça, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, à faire ça. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on va afficher le prix écologique pour demain faire payer le prix écologique. Hein, la taxe carbone, c'est ça, c'est payer le bon prix. Aujourd'hui, on n'a jamais payé pour l'environnement, et ben on va commencer à payer, payer pour les dommages. Et...
Alors, la dernière question et la dernière réponse, courte chacune, s'il vous plaît, parce que sinon...
J'ai assez confiance dans un changement de comportement dans les grandes villes, notamment Paris, encore que les Verts se soient fait blackbouler à cause de leur volonté de réduire la voiture et de faire les pistes cyclables. Mais en province, avec tous les petits commerces qui ont fermé, dans les petits villages, les gens sont obligés d'aller un peu plus loin dans les grandes surfaces pour s'alimenter, ne serait-ce que pour s'alimenter. Et si on ne trouve pas de solution pour que des petits commerces reviennent dans les petits villages, la voiture continuera à être le seul moyen de transport pour aller faire...
Mais vous avez raison, c'est pour ça qu'il y a les discussions aussi sur... un exemple qui est proche aussi, c'est les circuits courts pour l'agriculture. Effectivement, consommer plutôt les produits des agriculteurs qui sont pas trop loin de là où on habite pour limiter les transports, etc., plutôt que de manger des fraises qui viennent d'Espagne ou de choses comme ça. Effectivement, on est quand même dans une remise en cause complète des modes de production et des modes de consommation. Et donc, on va se reposer des questions typiquement, vous avez raison, de commerce de proximité, de choses comme ça, dans nos notions de ville durable, on a un peu oublié tel qu'on a fait l'urbanisation dans les dernières années, on a complètement occulté ce problème des déplacements pour l'accès aux différents services, aux magasins, etc. Et aujourd'hui, on essaye de repenser pour la ville durable, c'est repenser la ville et repenser l'impact minimum pour nos besoins de tous les jours. Donc vous avez tout à fait raison, on va remettre le Grenelle, ça ne va pas se faire sans une modification profonde de nos modes de production et de consommation.
Bien, merci beaucoup. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu intervenir. Merci Mathieu Orphelin.